Tout-Puissant, mon Sauveur, règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons. Tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh.
Bonjour à tous et bienvenue. Quelques nouvelles que j'ai prises hier sur romandie.com pour ceux qui connaissent. 17h03, deuil national après un incendie meurtrier en Roumanie. 17h30, la boîte noire de l'avion russe qui s'est écrasée en Égypte est retrouvée. 17h32, plus de 40 cas d'infection par un produit ophtalmique en Espagne. 17h41, manifestation à Tunis pour une hausse des salaires. 18h15, crash en Égypte, la revendication par l'État islamique ne peut être considérée comme exacte. 18h16, Burundi, la police tire sur un bus faisant entre 1 et 16 morts, selon les sources. 18h50, rugby, les All Blacks conservent leur titre de champion du monde. 18h52, personne ne décroche le jackpot du Swiss Lotto, encore des déceptions. 19h11, Bangladesh, un éditeur poignardé, trois militants de la laïcité grièvement blessés. 20h53, les quatre premières banques grecques ont besoin de capitaux. Quel désespoir. 21h, vous souhaitez comparer des offres, simplifiez-vous la vie avec devis.ch et tout à coup vous pensez à vos primes d'assurance maladie qui ont encore augmenté. 21h53, Guinée, la Cour constitutionnelle valide la réélection du président Condé. 22h31, une foule d'Israéliens et Bill Clinton rassemblés en l'honneur d'Itzhak Rabin. Israël commémore l'assassinat de Rabin. Hébron enterre ses morts. Waouh ! Ça fait envie de vivre dans ce monde. À ça, on rajoute la météo. Les petits soucis de santé. Les enfants qui obéissent pas, pour ceux qui en ont. Ça ne fait pas forcément envie de venir et louer le Seigneur. Et pourtant, 1 Pierre 1, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Louons le Seigneur.
Bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'après... Avec ce qui a été juste dit, c'est vrai que moi j'ai aussi un peu suivi l'actualité cette semaine avec tout ce qui se passe, c'est vrai que ça c'est terrible. Mais en même temps, je me dis, on a un privilège d'être ici et de pouvoir le louer, de pouvoir le bénir, d'avoir aussi, comme vous le savez tous, j'ai un peu de chat, et puis de le voir grandir, c'est assez incroyable. Chaque jour, le matin, je le vois, puis chaque jour, il change ses cheveux, ses yeux. Ouais, c'est un pur bonheur. Avec tout ça, je voyais Jésus en lui. C'est ça qui est assez incroyable. C'est que c'est un petit être, voilà, qui est né et qui nous apporte de la joie, du bonheur. Un petit peu, voilà, il y a des pleurs, voilà. C'est pas évident, le matin, de bonne heure, il faut se lever, voilà. Mais j'avais envie d'être reconnaissant, en fait, d'avoir ce petit bout de chou qui est aussi en bonne santé. Et malgré, c'est vrai que tout ce qui se passe, on a ce privilège de... moi, je peux voir en lui Jésus qui vit. Je me suis imaginé que Jésus est né en étant un homme, un petit enfant. J'ai fait un petit peu le lien, puis de le voir grandir. J'avais envie, ensemble, pouvoir le louer, puis qu'on puisse rassembler ensemble pour louer notre Seigneur et le bénir et le glorifier. Alors je vous invite à vous lever et puis qu'on puisse ensemble chanter de nos montagnes et nos vallées.
Nombre s'assemble pour louer Dieu et proclamer.
prochain chant. C'est un chant qu'on a juste chanté tout à l'heure, à l'intro. Je vous invite à écouter ou à chanter avec nous. C'est un chant qui me fait du bien, qui dit « Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur, règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi. »
Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant.
Merci Seigneur parce que tu es fort et puissant. Je te remercie pour qui tu es. C'est vrai que quand on entend tout ce qui se passe dans ce monde, toutes ces guerres, toutes ces choses horribles qui se font pour nos frères et sœurs, ben c'est vrai que ça, on n'a des fois pas trop envie de croire ou de dire ben, tu peux faire quelque chose. Et je sais que quand on entend certains témoignages de ces gens qui disent que ouais, malgré la persécution, ben ils ont foi en toi et puis que qui se raccroche à toi, ben moi ça me raccroche aussi encore plus à toi en disant ben c'est vrai qu'ici on vit encore vraiment bien et que ouais, j'ai envie de plus me raccrocher. Seigneur, sois vraiment avec nous et merci pour parce qu'on peut vraiment chanter pour toi, te glorifier. Et c'est vrai que tu es mort sur la croix pour nous, pour nos fautes, pour tous nos péchés. Et je te remercie, Seigneur. Merci, Papa.
Thank you.
Ce dernier chant qui dit « Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. »
Sois ma lumière, sois mon chemin. Je vous propose de passer au moment de prédication. J'invite Jean-Marc Pillou à nous rejoindre et souhaiter à Jean-Marc et à Martine la bienvenue à l'Église évangélique de Meyrin.
Bonjour à chacun. C'est avec grande joie qu'avec Martine, on se retrouve au milieu de vous. Je crois que la dernière fois qu'on était venu vous trouver, je crois que ça remonte à il y a 2 ans. Il y a eu quelques visites, quelques relations plus personnelles avec certains, mais ça fait 2 ans en tout cas qu'on est venu partager un moment avec vous. Ce matin, il y aura donc un moment de prédication et aussi un moment tout à l'heure où on vous expliquera un petit peu ce que l'on est devenu dans notre mutation pour se rapprocher de Genève en quelque sorte, quoi. Même si finalement, donc nous étions à Bordeaux, on a vécu un temps à Lyon et puis maintenant nous sommes à Grenoble. Je disais plus près, mais en fait il y a 20 minutes de différence entre les deux, quoi. On va ouvrir la parole dans un moment. Ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour ce matin, c'est en fait non seulement Christ est en haut dans les lieux célestes, vous savez, là où il y a du soleil, hein, pour un peu parodier ce qui a été dit tout à l'heure, là où il fait beau, et je peux vous dire que de l'autre côté du Jura, il y a un peu de soleil. Mais en fait, on va lire un passage qui est assez stupéfiant, parce que non seulement Jésus s'est incarné parmi les hommes à l'occasion de Noël, mais la parole de Dieu nous dit que Christ vit en nous. Et j'avais à cœur de vous partager cela ce matin. Et puis, puisque Jésus a dit que, en fait, finalement, même les enfants peuvent nous apprendre quelque chose, je vais vous montrer une petite vidéo très brève de 30 secondes de deux petites filles qui parlent de Dieu et qui parlent de Jésus.
Ouais, parce qu'il est dans le ciel, on ne voit pas Dieu. Dieu, il nous voit tout petit. Ouais, parce qu'il est dans le ciel, on ne voit pas Dieu.
Dieu, mais on ne le voit pas, mais on le sent.
Non, parce qu'il est dans notre cœur.
Hein?
Parce que Dieu, il est de partout. En fait, on dirait qu'il y a plein de dieux.
Hein,
dans le ciel.
Voilà. La théologie, pas pour les nuls, parce que ça vient de leur cœur. C'est ce qu'ils ont compris. Donc, un témoignage, notre témoignage, là, il est irrévocable. Si on pouvait mettre maintenant le PowerPoint, ce serait gentil. Donc, Christ en nous. En fait, ce thème, donc on va lire un passage de Colossiens, c'est Johan qui va nous lire le texte, simplement avant qu'on soit à l'écoute de ce texte. Ce texte que Paul a écrit, en fait, est une prière, c'est un hymne à Jésus-Christ. Paul est en prison à Rome, et son ami Epaphras vient le trouver pour lui parler de l'église de Colosse, qui est touchée par une hérésie, qui touche la compréhension de qui est Jésus. Donc voilà, on va lire le texte, Colossiens chapitre 1, versets 9 à 29.
C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisons tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi.
Merci, Joanne. Je relis ce verset 27. Et voici ce secret, le Christ est en vous, et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Christ en nous, un mystère dont parle l'apôtre Paul. Christ en nous, il en parle parce qu'il avait une idée profonde de qui était Jésus-Christ. C'est à la fois quelque chose de particulier de dire cela ainsi, Christ en nous, mais c'est aussi quelque chose de passionnant. Parce que si Christ vit en nous, ça a des répercussions sur notre vie au quotidien. Car si Jésus-Christ vit en nous, sa nature, sa personnalité, son caractère devraient normalement influencer le nôtre. Mais Christ est en vous si vous lui avez donné votre vie, si vous avez répondu à ce « Toi, Jean-Marc, suis-moi ». Et la conséquence de cela, eh bien, c'est ce qui nous est mentionné dans ce chapitre 1, et c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'on puisse lire l'ensemble de ce chapitre. Il y a beaucoup de perles qui nous sont données. Par exemple, Dieu manifeste sa volonté par l'Esprit qui est en nous. À cause de cela, nous avons une ligne de conduite. À cause de Christ, nous avons changé de camp. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. À cause de Christ, nos péchés sont pardonnés. À cause de Christ, la réconciliation est possible. Et à cause de Christ, nous avons part à la gloire de Dieu. Toutes ces bénédictions, toutes ces affirmations, elles sont pour nous. Ça ne doit pas être de la théorie, mais ça doit être des certitudes que l'on s'approprie petit à petit en marchant avec le Seigneur. Alors comprenons bien, c'est que finalement, quand Paul parle de cela, de ce mystère, finalement, il rentre dans la pensée de Dieu qui était d'habiter parmi les hommes. C'est la réalisation de l'Église. Paul ne perd jamais de vue cela. Il croit que Dieu bâtit son Église là où Dieu l'a placée. Et quelles que soient les origines, d'où viennent les hommes, eh bien, il y a dans l'ADN commun de ces enfants de Dieu un peuple qui aime son Dieu et un peuple qui veut le servir. J'aime à penser que finalement, nos églises doivent ressembler à celle qui sera ultimement dans le ciel. Il y a quelqu'un qui disait il y a quelques années que finalement, quand on sera dans le ciel, nous aurons un Chinois devant, un Chinois à gauche, un Chinois à droite, un Chinois derrière nous, et nous, là, nous serons là au milieu. Finalement, qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on vit? Comment est-ce qu'on va vivre ce fameux grand repas? Ce grand repas, à mon avis, il sera plus ainsi, avec la diversité de ce que l'on est. Mais finalement, notre défi finalement, de l'Église à Grenoble ou ici en Suisse, c'est finalement d'être avec le Christ qui vit en nous, des hommes et des femmes qui ont à cœur de pouvoir toucher les hommes et les femmes, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur nationalité. Et ce n'est pas seulement l'actualité télévisuelle qui nous le dit, mais c'est la réalité d'un monde qui est en souffrance et d'un monde où nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous sommes appelés à rejoindre. C'est pour cela que lorsque des membres d'une communauté sont très différents, ce n'est pas facile, mais finalement, il y a de l'espoir au niveau des relations que dans la mesure où le centre, ce ne sont pas les intérêts culturels différents, mais où le centre est Jésus-Christ. Et donc c'est là où est le défi. C'est là ce que le Seigneur nous appelle à vivre et dans lequel nous sommes appelés à rentrer. Et dans ces textes de Paul, finalement, pour caractériser le chrétien et sa relation avec le Seigneur, il emploie habituellement l'expression « en Christ » ou « avec Christ ». Simplement, dans cet épître aux Colossiens, il utilise 20 fois cette expression. L'expression « Christ en vous » est une expression qui est beaucoup plus rare. Elle a été utilisée seulement 2 fois dans cet épître. En fait, nous devons comprendre que dans la fonction du Saint-Esprit qui habite en nous, eh bien, c'est la fonction de cet esprit, c'est la fonction de l'Esprit de Jésus qui est en nous, eh bien, c'est de nous conduire dans la vérité. Par exemple, Romains 8, verset 9 nous dit « Vous suivez l'Esprit de Dieu parce qu'il habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'appartient pas au Christ. » Paul est chaque fois très lapidaire, il n'y a pas de moite-moite, hein, mais voilà, il nous invite à faire des choix de compréhension, des choix d'engagement. Et en fait, finalement, cette expression, cette formule « Christ en vous » est là pour nous faire comprendre que l'œuvre du Saint-Esprit est justement de façonner en nous ces caractéristiques de la personnalité de Jésus-Christ. Et c'est là, finalement, où se pose la question, en fait, Jésus, comment est-il ? Alors, vous savez, on a la fâcheuse tendance, nous, à voir Jésus dans bien des films des années 70, 80, 90. Souvent, on voyait Jésus avec des yeux bleus, des cheveux blonds, grand, fort, beau et musclé. Enfin, c'est, voilà, notre imagination, elle est comme ça. Mais aujourd'hui, si vous voyez un Palestinien, quelqu'un qui vit au Moyen-Orient, je pense que Jésus aurait plus cette apparence-là, pleinement incarnée. Donc, la personnalité de Jésus, comment elle est-elle ? Quand on réfléchit, on se dit, Jésus, il a rencontré telle personne, il a eu telle attitude, tel comportement. Et petit à petit, on s'imagine quelle est la caractéristique de Jésus. Mais, en fait, on s'aperçoit aussi que la Bible a utilisé beaucoup d'images, beaucoup d'illustrations pour nous aider à comprendre. Je vais vous donner une illustration pour illustrer cela. Quand on dit, par exemple, dans le monde animalier, ou quand les enfants parlent, on dit « gros comme un éléphant », hein, ou on dit « long comme un escargot », ou alors on dit « grand comme la petite girafe que j'ai vue tout à l'heure dans les bras d'une petite fille ». Voilà, la girafe est là, l'escargot, voilà. La Bible utilise des comparaisons comme cela. Pour nous aider à comprendre finalement comment se comportaient certains êtres spirituels, par exemple, Dieu a permis que Satan soit illustré au travers d'un serpent. Donc il y a toutes sortes de comparaisons pour illustrer, pour nous aider à comprendre cela. Mais après cette parenthèse animalière, mais vous allez voir pourquoi je vous ai donné cette illustration-là, en fait, comment le Christ est décrit ? Le Christ, il est décrit d'une autre manière, pas en regardant les évangiles, parce que là, il nous est relaté des comportements, des attitudes qu'il a eues, mais par contre, il nous en est parlé d'une autre manière lorsqu'on lit un texte de l'Apocalypse, que je vais lire avec vous, un deuxième texte, Apocalypse 5, versets 5 à 6. Alors je vis dans la main droite, donc c'est Jean qui parle, alors je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au dedans et au dos, scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Mais l'un des anciens me dit « Ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a été vainqueur. Il peut ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Pour situer ce texte, qui est un texte important, c'est une vision que l'apôtre Jean a. On est dans les derniers jours, et là, il voit le lion de Juda, Jésus le lion de la tribu de Juda, et c'est évident que dans sa vision, Jésus ressemble à un lion, mais en fait, il n'est pas un lion. Et vous l'avez compris, quand on regarde la suite du verset, au verset 6, on s'aperçoit que le lion s'est transformé en agneau. On se demande, mais pourquoi ? De nouveau, il utilise une autre illustration, l'agneau de Dieu qui est mort volontairement et qui a pris les péchés devant l'humanité, de l'humanité. Comment un lion pourrait-il devenir un agneau ? Et c'est exactement finalement la question que se posent les Juifs depuis 2000 ans. Ils attendaient un lion pour les délivrer de l'oppresseur romain et en fait Jésus est venu comme l'agneau de Dieu. Le lion et l'agneau. Vous commencez à réaliser quelque chose ? Christ en vous, Christ en nous, le lion et l'agneau. Alors, on va gratter encore un peu plus. Caractéristiques. À quoi ressemble un lion? Ben, le lion, en fait, il a quatre caractéristiques principales. Tout d'abord, le lion, finalement. Le lion, c'est la noblesse. La noblesse, le roi des animaux, Jésus est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il règne sur son trône. Deuxième aspect, c'est aussi la notion de l'autorité. Le lion est le seigneur de la jungle. Jésus est l'autorité ultime devant qui tout genou devra fléchir. Et puis dans le lion, il y a la notion aussi du courage. Le lion est un animal très courageux. Et Jésus a accepté de quitter sa royauté pour devenir un homme et sur la terre, il a affronté les puissances mauvaises. Et puis, une autre caractéristique finalement du lion, c'est sa force bien sûr, et c'est l'image souvent que l'on a. Pour Jésus, même la mort n'a pas eu cette capacité de le retenir. Mais Jésus s'appelle aussi l'agneau de Dieu. Alors, l'agneau de Dieu, c'est la douceur. C'est sa caractéristique principale, c'est la pureté. Un agneau est pur et sans défaut, ni tache. Et Jésus est présenté de cette manière-là. Et puis c'est aussi, au travers de l'agneau, la notion du sacrifice. Dans l'Ancien Testament, on prenait le sang de l'agneau pour l'offrir, pour couvrir les péchés du peuple. Et puis, comme dernière caractéristique, c'est aussi la notion de confiance, de cet agneau qui fait confiance à son berger, qui écoute son berger pour être conduit. Et on voit au travers des évangiles combien la relation de Jésus avec son père était une relation non seulement de fils à père, mais aussi de celui qui était dans l'obéissance, dans la compréhension. Descriptif de l'agneau et du lion. Alors, on pourrait se dire, mais finalement, dans la Bible, est-ce qu'on retrouve ces caractéristiques dans les personnalités bibliques? Oui, on les retrouve. Vous prenez par exemple, prenons le roi David, on le voit combattre Goliath, on le voit déchirer un lion, on le voit à certains moments être dans une attitude forcée, vous me direz, d'humilité, lorsque Nathan vient le trouver pour dénoncer son péché, on voit des caractéristiques spirituelles. L'apôtre Pierre, on voit l'apôtre Pierre qui, lui, à un moment donné, il est brisé, cassé dans sa rencontre avec Jésus suite à son reniement. Donc il apprend la douceur, l'humilité, alors que le jour de la Pentecôte, en fait, on retrouve un Pierre qui est plutôt un lion rugissant. L'apôtre Paul, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, quand il pose la doctrine, quand il enseigne, quand il réfute les contradicteurs. Et puis aussi, il y a des belles figures de femmes, d'épouses dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, j'en cite juste deux, Déborah, juge dans l'Ancien Testament, femme d'autorité, mais aussi femme pleine de douceur. Puis je prends un deuxième exemple, Phoebé, chrétienne, diacre de l'église de Sancré, qui est mentionnée en Romains 16 comme une femme responsable qui a dû intervenir auprès des autorités politiques. Alors on pourrait se dire, mais agneau, lion, tout ça dans la personnalité de Jésus, dans notre personnalité, est-ce que finalement il n'y a pas une contradiction? Est-ce que la nature de Jésus n'est-elle pas pleine de contradictions? Moi je pense que la nature de Jésus, elle est pleinement équilibrée. Pourquoi? Parce qu'il répond finalement aux besoins des gens qu'il va rencontrer tout au long de son ministère. Chaque fois que Jésus était confronté au péché, on voit qu'il est semblable à un lion, il les remet en place. Chaque fois qu'il était en face de situations démoniaques, on voit l'autorité spirituelle du lion, si on peut le dire comme cela, et il met un terme aux mensonges et aux tromperies des démons. Chaque fois qu'il rencontrait la souffrance, on le voit plein de douceur, plein d'amour pour s'approcher de ceux et celles qui étaient dans la souffrance. Alors, j'en arrive à mon dernier point. Finalement, au travers de cet exemple, comment le Christ peut-il vivre en nous? Et ça, je crois que c'est la vraie et bonne question. Ésaïe disait, dans le royaume de Dieu, le lion s'étendra avec l'agneau. Et Jésus, dans l'évangile de Luc, a dit aussi, le royaume est en vous. Le royaume est en vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que nous sommes appelés à laisser vivre l'agneau de Dieu et le lion de Juda dans nos vies, les caractéristiques pleines et entières de la personnalité de Jésus. En devenant enfant de Dieu, nous avons été au bénéfice de cette nouvelle naissance, de cette transformation. Et cette naissance spirituelle, elle vient en nous par l'action du Saint-Esprit. Et ça, c'est finalement le point de départ. Cet été, lors d'un culte, j'ai été approché par un jeune d'origine qui était franco-canadien et qui me dit « Je me demande si j'ai bien compris l'Évangile. » Je lui dis « Mais pourquoi tu dis ça ?» C'est après la prédication. Il me dit « Au travers de ce que vous avez dit là, il me semble qu'il y a quelque chose que je n'ai vraiment pas compris. » Et en fait, il me dit « Je crois que j'ai vécu jusqu'à ce jour avec l'héritage spirituel de mes parents, mais je n'ai jamais fait de choix personnel. » Il devait avoir une trentaine d'années, quoi. Voilà, et on sentait dans la discussion que j'ai eue avec lui que finalement, il était au bénéfice de connaissances, d'un héritage, mais il n'avait pas fait de choix, quoi. Et en fait, finalement, cette fameuse question qu'on doit sans cesse se poser, mais est-ce que Dieu aurait des petits-enfants, quoi ? Ben non, Dieu n'a que des enfants, que des fils et des filles qui ont fait un choix à un moment donné, un choix d'engagement vis-à-vis de Dieu. Donc finalement, pour vivre cette réalité de la présence du Christ en nous, il y a une démarche personnelle à faire. Et sans cesse, il faut revenir à nos fondamentaux de protestants évangéliques. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Donc en fait, il y a un acte de foi, un acte de confiance à faire à l'égard de Dieu. Paul dit dans le dernier verset qu'on a lu tout à l'heure dans Colossiens, verset 9, et ça je crois que c'est aussi un indicateur, un exemple de comportement, Paul combat par la force du Christ qui agit puissamment en lui. Il combat, non pas par ses propres forces, mais par la force du Christ qui agit puissamment en lui. Et c'est ainsi, nous montre le texte, que l'on peut progresser, que l'on peut grandir et arriver au stade d'adulte spirituel, nous dit le texte qu'on a lu ce matin. Et c'est ainsi qu'en ayant ces caractéristiques de la présence du Seigneur, ce qui nous semble à nous des Himalayas impossibles à atteindre, eh bien finalement l'enseignement du Christ va résonner d'une manière très forte. Cette semaine, je relisais dans l'Évangile de Luc au chapitre 6, trois versets, « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Grand défi. Priez pour ceux qui vous calomnient. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. On pourrait se dire, ça c'est pour les gens très spirituels. On en arrive même à envier les chrétiens de l'Église persécutée à cause de ce qu'ils vivent. Mais est-ce qu'on s'imagine vraiment ce qu'ils vivent ? Et pourtant, nous qui sommes ici, avec les défis qui sont les nôtres, professionnels, familiales, relationnels, dans tous les aspects, on est appelés à laisser le Christ grandir en nous pour véritablement qu'il ait toujours plus de place et que notre témoignage soit de plus en plus véridique. Je finis en quelques applications et conclusions. En 30 ans de ministère, en fait, avec Martine, on a rencontré beaucoup de chrétiens et certains se cachaient derrière les traits ou les problèmes de leur caractère, en mettant bien sûr la faute sur les autres, parce que les autres étaient la conséquence de leurs traits de caractère. C'est du style, j'ai tel trait de caractère, mais bien sûr c'est la faute à ma femme, à la faute à mon fils, à la faute à mes parents, à la faute de mon héritage, et on remet tout le temps la faute, mais c'est millénaire ça. Ève faisait déjà ça, ou Adam faisait plutôt déjà ça dans le jardin d'Éden, quoi. On a tous des luttes en rapport avec notre caractère, en rapport avec notre personnalité, moi le premier. Et finalement, la lumière de ce texte, en fait, finalement, est une espérance, est une porte qui s'ouvre pour nous aider à grandir. Ne restons pas, finalement, sur des fausses pensées que nous pourrions avoir concernant qui est Dieu. Je fais référence aussi à la petite vidéo du début. On peut tous avoir des fausses pensées, avoir affaire à un Dieu Père qui veut que nous soyons performants, que nous soyons au top spirituellement. L'Église est faite d'hommes et de femmes pécheurs. Et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes, même nous ici, ce matin, dans ce temps de culte, dans la présence du Seigneur, encore marqués par la réalité du péché. Toujours dépendants de la réalité de sa mort et de sa résurrection. Donc il y a toujours un combat d'ordre spirituel à livrer et qui est important. Mais notre assurance, notre certitude, c'est le fait de se rappeler et de se rappeler et de se rappeler qu'on a affaire à un Dieu qui nous aime, un Dieu qui a des projets pour nous et un Dieu qui a préparé toutes choses. Un verset pour illustrer cela, Romains 8, 28. Nous savons que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils. Et j'aime cette traduction. On est appelé petit à petit à être configuré, à être comme le Christ. Alors c'est vrai, il y a des enjeux, il y a des combats, mais on peut le faire avec l'aide et la force du Seigneur. Je finis en relisant avec vous simplement ce passage que Paul disait dans le texte qu'on a lu tout à l'heure. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Alors on peut le prendre pour moi, pour vous à Mérin, pour nous à Grenoble. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Augustin, un des pères de l'Église, a dit « Si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. » Donc, on a du travail. On a du travail. Et si ce matin, en ayant été à l'écoute à la fois de ce texte, de la parole de Dieu et de ce que j'ai dit, vous avez vraiment l'impression que cette notion « Christ en nous », c'est une notion qui vous est complètement étrangère, tout simplement parce que vous êtes peut-être comme le franco-canadien, hein, vous n'avez peut-être pas fait de choix, ou tout simplement parce que vous êtes en visite ici ce matin, puis vous dites, bon, je suis venu à l'église, j'ai vu de la lumière, il y avait de la chaleur, et puis je viens pour écouter quelque chose. Cette main tendue de la part du Seigneur, elle est encore là pour nous aujourd'hui. La grâce, elle est toujours là. Le Seigneur est toujours là, quel que soit notre parcours de vie, quelle que soit notre situation de vie. Le Christ est mort pour la réalité de ce que nous sommes. Il est revenu à la vie pour que notre vie ait un sens. Et c'est sur cette base-là qu'on peut continuer à marcher et à progresser, parce que tout est dans la personne du Seigneur Jésus. Je vous invite à la prière. Seigneur, on veut te remercier pour ce passage que nous avons pu méditer ensemble. Merci pour ces richesses que nous avons dans ces versets. Et Seigneur, on veut te dire encore une fois que notre désir est d'être dépendant de toi. Nous voulons que tu aies de plus en plus de place dans nos vies. Nous voulons que, Seigneur, les zones obscures de notre vie, les zones que nous croyons pouvoir te cacher, puissent être mises en lumière et que nous puissions vraiment rentrer dans ce chemin à la fois d'ouverture à ta personne, à l'action de ton esprit et aussi dans une démarche véritable de libération et de transformation. Merci pour ton aide, merci pour ta présence et merci aussi pour cette assurance que tu es là toujours, prêt à nous entendre, prêt à nous comprendre, prêt à nous tendre la main et prêt à faire un bout de chemin avec nous. Pour cela, on te bénit, on te loue et on te confie toutes choses, Seigneur. Amen.
Nous allons passer à un temps de Sainte-Cène. J'invite le groupe Mission à me rejoindre. Christ en nous. Le moment de Sainte-Cène, ça nous rappelle trois choses. Ce que Christ a fait, sa mort à la croix. Ce que Christ fait aujourd'hui dans nos vies. Et ce que Christ a préparé pour nous pour la suite. D'où je viens, où suis-je et où vais-je?
Alors, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. »
Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour ce sacrifice du Christ pour nous. Nous allons maintenant partager ce pain et ce vin pour recevoir ta vie en nous, pour recevoir cette réconciliation avec toi, cette réconciliation avec nos semblables dans ce monde, pour que cet esprit de Jésus-Christ vive en nous. Merci Seigneur. Amen.
Alors, on rappelle que pour le vin, sur les plateaux, vous avez au milieu le jus de raisin qui se trouve dans les petites coupes, elles, colorées. Et puis, si quelqu'un veut boire dans la coupe, qu'il fasse signe.
Seigneur, merci pour ce temps. Nous avons pu vivre ensemble ce partage du pain et du vin, ce partage de ta vie. J'aimerais que tu sois maintenant en bénédiction pour chacun de nous, que tu nous rejoignes dans notre quotidien, dans nos joies comme dans nos souffrances. Et merci pour cette présence qui nous accompagne à l'intérieur de nous. Amen.
Bien, nous allons passer maintenant à l'offrande. Et je crois que le groupe de... Non, c'est une musique.
Issu du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qui nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père. Qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se lise ce qui nous divise, nous sommes une seule Église. Jésus, et que son salut soit répandu.
Dieu Père, nous te remercions de que nous puissions nous aussi profiter de cette grâce et de cette bonté que tu nous donnes. Nous avons remis un peu d'argent, cette offrande, et nous voulons te demander d'accorder de la sagesse à ceux qui répartiront cet argent pour ton règne, pour ton royaume. Par Jésus-Christ. Amen. J'invite Jean-Marc à nous rejoindre. Jean-Marc et Martine.
Voilà. Alors, bonjour à tous. On nous a demandé de faire un petit témoignage de ce que l'on vit actuellement. Alors voilà, on dit que pour avoir...
Ça, c'était hier, à la photo. Hein. C'était, voilà, il y a du soleil. Ça, ça fait un peu carte postale, mais voilà.
On dit qu'il faut avoir des racines dans ce monde, que c'est quelque chose de très important pour une personne. Et je pense que pour un couple qui est dans le ministère, c'est aussi important d'avoir des racines. Et puis, l'église de Mérin a été notre église d'envoi. C'est un peu nos racines au niveau de notre envoi dans le ministère. Nous sommes partis de là pour nous former à Emmaüs, mais nous ne sommes jamais revenus à Genève. Il y a eu l'étape de Vevey, donc 3 ans à Emmaüs, puis 2 ans à Lausanne, stage et première année de ministère, 11 ans à Bordeaux, à l'époque c'était très loin, 16 ans à Lyon, et maintenant, depuis bientôt 1 année et demie, nous sommes à Grenoble. On a donc été voyageurs, peut-être un tout petit peu étrangers, parce qu'on est parti qu'en France, mais vraiment soutenus par nos églises, et on en est vraiment reconnaissants. Ce que l'on aimerait dire avec le recul, c'est que ce qui est le plus difficile à gérer pour nous, ce sont les attaches humaines. À chacune des étapes, on s'attache à des gens. Avec certains, on bataille à leur côté. Et puis, avec l'éloignement, eh bien, on ne peut pas garder le contact avec tout le monde. C'est juste impossible. Et on reprend des autres engagements ailleurs. Et ça, c'est un côté un peu frustrant dans tous ces changements. Voilà, ceci étant dit, nous sommes arrivés en juin 2014 à Grenoble. Grenoble, capitale des Alpes, on en entend beaucoup parler, beaucoup de ski. Ville olympique, si c'est bientôt il y a 40 ans, mais enfin, ils en sont encore très fiers. Mais surtout à l'heure actuelle, grosse cité universitaire avec vraiment des étudiants du monde entier. Gros centre de recherche aussi au niveau de la physique et de...
Microélectronique,
beaucoup d'ingénieurs là-bas. Mais également des cités pauvres et défavorisées avec des violences urbaines qui font la une des journaux et qu'on oublie tout aussi vite. Voilà. Donc nous sommes là au cœur de cette ville. Nous habitons à moins de 10 minutes à pied de l'église.
À vélo quand même.
Oui, à vélo. Non, ça fait 20 minutes, d'accord. Et l'église se trouve dans un quartier absolument atypique. Je vous laisse Jean-Marc faire le reste.
Voilà, on est donc vraiment en plein milieu urbain. Voilà, le train nous amène depuis là où on habite, en fait, en 20 minutes, on est au, en 15-20 minutes, on est au centre-ville. Caractéristique, c'est que c'est un milieu à la fois populaire, un ancien lieu très industriel, parce qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient présentes dans le quartier où est l'église maintenant. Et voilà, on est au bord de la rivière qui s'appelle le Drac. Et voilà, pour illustrer, voilà une photo un peu typique, hein. Vous avez l'Isère qui est en haut, le Drac qui est en bas, la petite étoile bleue qui est sur votre gauche, c'est là où on habite, et l'autre petite étoile bleue sur le bas de la carte, c'est là où est l'église. Et en fait, juste ce sorte de triangle montant, là, c'est ce qu'on appelle le polygone scientifique, et c'est là où il y a pléthore en fait, d'entreprises. Alors, en fait, la particularité, c'est que l'église est juste à côté de 3 grandes salles de spectacle. Nous avons, vous voyez en haut, là, là où il y a la flèche, donc on est au premier étage, l'église. En bas, ce bâtiment rouge, c'est une boîte de nuit qui s'appelle l'Ampérage. Sur votre droite, en fait, il y a une 2e salle. Et un peu plus loin dans la rue, en fait, il y a une grande salle de spectacle qui vient de s'ouvrir, qui s'appelle la Belle Électrique, de 900 places. Tandis que là, les deux plus petites salles, c'est voilà, petite configuration. Alors, c'est à la fois un défi parce qu'il y a à la fois la dimension populaire, artistique, Le monde musulman aussi, qui est à 5 minutes à pied avec le quartier qui s'appelle le quartier Saint-Bruno. Voilà, on est un petit peu une zone carrefour avec des chrétiens qui viennent bien évidemment d'issus du périphérique, parce qu'ils habitent certains assez loin, mais de plus en plus, il commence à y avoir une population qui vient à l'église, qui vient du quartier. Et donc, c'est ce qui fait aussi toute la diversité. Maintenant, les questions qu'on se pose, nous, après une année et demie, c'est comment arriver à rejoindre la population étudiante, comment leur donner une capacité, enfin, un accueil, et notamment lors des dimanches. On réalise de plus en plus, là, quand vous avez 10, 15 étudiants qui sont là, sans famille sur place, le dimanche à midi, c'est souvent McDo, le plateau repas, retour chez eux. Et en fait, finalement, est-ce que l'Église ne peut pas faire plus, quoi? Donc là, petit à petit, on est en phase de réflexion, justement, pour accompagner ces réalités humaines. Avec aussi, pour donner l'exemple de ce que tu as vécu mardi, mardi, l'accompagnement. Ouais.
Une jeune fille qui vient de La Réunion et qui est malade, qui a besoin de chimiothérapie régulièrement. Et personne pour l'accompagner et personne pour la ramener à la maison après, quoi. Alors, le dimanche au culte, est-ce que vous pourriez venir me raccompagner à la maison? Ben oui, parce que si l'église n'est pas là pendant ces moments-là, on ne sert un peu à rien aussi, quoi.
Là, la capacité, on a une capacité de culte de 110 places, mais quasiment la plupart des dimanches, c'est 100, 110, 115. On rajoute des chaises dans l'allée du... Et puis on a des problèmes aussi d'adaptation de nos locaux, parce qu'on est au premier étage, il n'y a pas d'ascenseur. Donc une personne qui a de la peine à monter la rampe d'escalier, ben voilà, il y a des limitations. Donc toutes ces questions-là sont ensemble, et il faut les affronter avec tout ce que ça comporte. Puis bon, on a une église qui est finalement en âge très très jeune, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, et encore cette nouvelle tranche-là qui arrive depuis 2-3 ans, avec beaucoup d'étudiants. Donc voilà, un défi à vivre dans l'accompagnement, quoi. Mais un ministère pastoral, je dirais, un peu conventionnel dans une réalité d'un quartier qui est unique, hein, parce que c'est notre quartier, comme vous ici, vous avez un quartier qui est unique, quoi. Encore une deuxième photo pour illustrer. Là, dimanche prochain, notre église va être transformée en immense braderie, dans le sens que les gens, nos voisins, les collègues donnent des vêtements, des objets périculture, des jouets, et on les revend au profit d'une œuvre humanitaire en Afrique. Et donc, il y a un témoignage au niveau du local, parce qu'on donne la possibilité à des gens de pouvoir acheter des objets à très bas coût. Et puis, il y a aussi la possibilité de bénir et d'encourager pour la construction de puits et aussi de sanitaires, en fait, en Afrique, quoi. On a fait aussi la fête des voisins dans le quartier de l'église. C'était un peu une innovation au mois de juin. Et c'était sympa de pouvoir être là, présent dans le quartier. Ça, c'est intéressant, le nom de la place. La place des martyrs de la résistance.
Non, c'est le square des fusillés.
Ah oui, c'est le square des fusillés. Voilà, mais en fait, il y a une multitude liée à l'histoire de Grenoble, de lieux comme ça, avec des statues, avec la liste des noms des gens qui sont morts, quoi. Voilà, un baptême tout récemment aussi. Et puis une des choses qui a marqué notre ministère aussi ces 7 dernières années, en fait, c'est l'organisation de camps famille au Chambon-Soulignon, à Tin Ranch Lermont exactement. Et en fait, finalement, au fil des années, en ayant de plus en plus d'expérience dans l'accompagnement, ça nous a formés et nous a aidés à mieux aussi comprendre la réalité des couples et des familles que nous rencontrons. Lors de chacune de ces semaines, puisque ça dure une semaine, en fait, c'est à peu près entre 100 et 120 personnes qui sont présentes sur le site, adultes, jeunes et enfants. Et la particularité, en fait, c'est qu'on touche des familles protestantes, évangéliques, catholiques ou des familles qui n'ont aucune attache spirituelle, quoi. Et on propose aux familles qui s'inscrivent, aux couples ou aux familles monoparentales, soit un parcours alpha couple en une semaine, ou soit alors un parcours mes enfants et nous ou mes enfants et moi. Et en fait, ça leur permet en fait de progresser sur les questions de parentalité. Donc, pendant que les parents ont leur temps à eux, les enfants sont pris en charge par une équipe de moniteurs hors normes. C'est de vous imaginer dans une pièce avec combien de bébés la dernière fois ? 20 bébés de moins de
3 ans.
Moins de 3 ans. il faut avoir des personnes professionnelles dans le domaine pour l'accompagnement des enfants pour vivre ce temps-là. Mais c'est super, quoi. Et chaque année, on a des familles suisses aussi qui nous rejoignent pour ce camp parce qu'ils ont été sur Internet, ils ont vu, ils ont cherché cheval et la semaine donnée. Et en fait, ça aboutit à ce qu'on ait des gens de Genève, de Lausanne, de la Suisse romande, quoi. Une dernière diapo pour montrer notre actualité. C'est vrai qu'il nous a fallu une bonne année pour prendre nos marques, hein, dans cette église, pour commencer à comprendre les rouages de la ville et puis aussi de l'église. Et finalement, on peut dire que nos trois axes d'engagement principaux, c'est la formation, hein, sous toutes ses formes, un groupe découverte, différents parcours, préparation. En ce moment, par exemple, on est sur... deux parcours de préparation au mariage, plus encore une autre situation de couple qu'on accompagne. Donc voilà, ça donne un élan, un souffle aussi pour la communauté. Et on accompagne, comme cette église, aussi un couple de stagiaires qui nous vient de Grasse. Et on a vraiment à cœur de pouvoir transmettre finalement notre capital expérience de ces dernières années à un couple qui se lance dans le ministère. Particularité de ce couple-là, ils sont arrivés au mois de septembre avec quatre enfants. Là, il n'y en a que trois sur la photo, mais le quatrième qui est arrivé au mois de juin. Donc voilà, c'est un défi aussi pour leur montrer comment vit le ministère à 35-40 ans, quoi. Et puis, l'autre axe, c'est le développement de l'évangélisation pour l'Église sous toutes ses formes. Là, on est sur un projet qui s'appelle Bouge ta ville au mois d'août 2016. Et puis, au début du mois de décembre, on aura une fête inter-église pour les enfants des églises et hors de l'église. On attend entre 400, 500, peut-être 600 enfants de l'agglomération de Grenoble, quoi. Et puis, la dernière diapositive. Depuis le début de cette année, en fait, j'accomplis un petit peu une œuvre de soutien pour une église qui est à peu près une demi-heure sur le plateau du Vercors, à Villard-de-Lans. Une église qui n'a plus de pasteur depuis, où l'ancien pasteur est Léo Mussner, que certains connaissent. Et en fait, je soutiens le conseil plus particulièrement. Petite communauté, hors saison, une quinzaine de personnes. Et puis, pendant la saison touristique, l'église est pleine, quoi. C'est 80 personnes qui sont là. Donc, c'est important qu'un témoignage puisse être là, présent. Donc, je monte régulièrement encourager cette église, petite communauté, quoi. On finit en vous remerciant pour votre soutien affectif, dans la prière aussi. C'est vrai que votre amitié nous est précieuse, hein, au fil des années. Et c'est vrai que la notion de persévérer, ça a été un petit peu notre leitmotiv durant ces années. Et c'est vrai que durant cette dernière étape, peut-être, du ministère à Grenoble, on veut s'attendre aussi à Dieu. Et donc, on a besoin de votre soutien dans la prière aussi pour vivre ce que le Seigneur nous permet de vivre aussi durant ces années. Voilà, merci.
Juste voir nos annonces avant de nous quitter. Voilà, donc nous rappelons que chacun est invité à prolonger ce moment autour d'un repas canadien où nous mettons ensemble ce que nous avons apporté ou oublié d'apporter. Et puis, donc, c'est un temps aussi que nous pouvons poursuivre avec Jean-Marc et Martine à faire meilleure connaissance. Ensuite, il enchaîne également un temps avec nos jeunes, le groupe de jeunes chrétiens tout-terrain, qui nous invite à les découvrir, mieux les découvrir de par des ateliers qui seront proposés directement après le repas canadien. Donc, c'est vraiment une invitation qui est adressée à nous tous. Les paquets de Noël, donc les affaires continuent de s'accumuler. Il y a déjà une quarantaine de paquets qui sont confectionnés. Donc, veuillez prendre les petits tickets qui sont sur le tableau à l'extérieur. Si si vous voulez participer, donc ça aide dans l'organisation pour ces paquets. Et donc nous commençons aussi à en fabriquer à partir de ce mercredi. Donc voyez Béatrice Lédevant qui est avec les enfants en bas si vous pouvez participer. La kermesse le week-end prochain, donc comme chaque année au centre œcuménique, nous désirons avoir un stand de littérature chrétienne et également une animation pour les enfants. Claude Parnigoni a une liste et donc vous êtes invité à vous approcher de lui pour vous inscrire pour un créneau d'une heure le samedi, le dimanche ou même deux heures. Donc c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut qu'on voit clair qui fait quand. Donc voyez avec Claude après le culte s'il vous plaît. Le week-end prochain également, le dimanche, c'est la journée de notre fédération, Fédération romande d'Église évangélique, à Yverdon. Donc, il y a des papillons à disposition, une journée très complète. Il y a possibilité de covoiturage, si vous voulez vous adresser à moi, si vous désirez y aller sans moyen de transport. Vendredi 13 novembre, notre colloque, c'est un moment important dans notre vie d'Église. Il y a des décisions importantes à prendre concernant l'avenir. Donc, vous êtes vivement encouragés à participer à cette soirée vendredi 13 novembre. Journée masculine le 14 novembre, il y a des orateurs intéressants qui sont proposés cette année, je dis chaque année, je ne sais pas, mais cette année en tout cas. Et c'est aussi Claude Parnigoni qui rassemble nos inscriptions pour cette journée qui a lieu à Lausanne. Voilà, vous avez peut-être remarqué en venant qu'il y a une table avec des confitures qui sont proposées, des confitures de coin. L'idée, c'est que si ça vous dit, vous en achetez un pot de confiture et les 5 francs que ça coûte va en faveur de l'association Asafi qui fête ses 10 ans et qui propose différents parrainages en vue d'aider la population, comme nous le savons, dans le Congo par ces microcrédits. 50 francs permet une personne d'entrer dans un microcrédit. 10 pots de confiture, il en a beaucoup. Les groupes de bibliques universitaires nous ont demandé notre aide. Ils ont une mission ici à Genève. À partir du, en fait, ce serait le lundi, les dates, non, c'est la semaine d'avant, il me semble. Mardi 10, oui, merci. Pour les sandwichs, c'est les mardis 10. En fait, ils ont 4 jours de mission avec des orateurs extrêmement intéressants. Et eux, ils veulent, donc les étudiants viennent à midi et ils n'auront pas mangé. Donc, ils veulent leur donner un sandwich et une boisson. Et donc, le mardi 10, c'est à nous de confectionner les sandwichs et les descendre là où ils seront distribués, au temple de plein palais. Donc, il y a besoin de 4 personnes pour les fabriquer le matin même, et vous pouvez vous inscrire auprès de Claire-Lise Serex, qui coordonne cette aide qui nous est demandée. Je crois que c'est tout. Je n'ai pas ajouté de... Je vous invite à vous lever pour la bénédiction qui clôt ce temps de culte. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Allons dans cette confiance que le Seigneur Jésus est avec nous, en nous, et allons dans la force de son esprit. Que vous soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche, et puis restez si vous pouvez pour le repas canadien.